18h30, 19h, La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation de Méga FM en partenariat avec le syndicat mixte du pays de Grande-Sologne. Ce soir, nous nous pencherons sur les offres culturelles et leur impact économique avec des exemples d'événements portés par des acteurs locaux. Leur principale mission à ces acteurs, faire du territoire de La Sologne, territoire encore, toujours et avant tout considéré comme un territoire de chasse, un espace de création artistique, de découverte culturelle, d'échange et de partage humain. Nos invités ce soir vont donc nous plonger au cœur de la diversité créatrice proposée en Sologne. Alors nos invités ce soir, c'est Pascal Goubert de Coville, maire de Chaumont-sur-Tharonne, membre du comité d'organisation de l'association Sculpte en Sologne, Noël Gardet, trésorière de l'association UCPS, l'Union pour la culture populaire en Sologne, et Patrick Morin, maire de Chon, directeur artistique au niveau de l'association des rencontres musicales de Chon. Bonsoir, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Alors, cette première partie d'émission va nous permettre, un petit peu comme je le disais en préambule, de nous plonger dans la diversité des offres culturelles qui sont proposées en Sologne. Alors, si vous le voulez bien, messieurs, je vais me tourner tout de suite vers Noël Gardet, quand même honneur aux dames. Bonsoir Noël. Alors, vous représentez, vous, l'association l'Union pour la culture populaire en Sologne, l'UCPS. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter ce qu'est cette grande association?
C'est une grande association qui, à la base, ce sont des recherches ethnographiques sur le patrimoine local, le patrimoine matériel et immatériel. Mmh. Et à partir de ça, on monte des manifestations, entre autres les Musicalies en Sologne ou Berdine Berdogne ou Festival Conte. Et le but, c'est un accès à la culture pour tous, mmh, avec la culture dans le milieu rural. Voilà.
Alors c'est une association qui date de 1981, voilà. Donc ça remonte
33 ans.
33 voilà. ans d'existence. 33 Alors ans. Il y avait sept communes au départ au niveau de la création. Il y en a 49 maintenant.
Oui.
Donc c'est réparti sur les trois départements. Donc voilà. Le Loiret, le Loir-et-Cher et le Cher.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui a fait que justement ça ait pris de l'ampleur comme ça? Est-ce que la demande du coup culturelle s'est fait sentir au fur et à mesure des années?
Oui, je pense que c'était au départ, c'était une fédération d'associations qui se sont réunies pour faire un chemin ensemble et s'épauler au niveau matériel et puis au niveau aussi bénévolat, compétences diverses et apporter chacun son savoir-faire.
Alors, vous avez évoqué des exemples d'événements, notamment les Musicalies en Sologne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Les Musicalies en Sologne, c'est parti, ça va être en 2014, notre 28e édition. Mm-hmm. C'est parti de quatre musiciens, deux vielleux et puis un accordéon diatonique et une percussion, qui sont allés faire un festival en Alsace. Et ils sont revenus, ça c'était en 1986-87, mm-hmm, et ils ont eu envie de faire la même chose ici. Donc ils ont cherché un petit village typique solognaud, bien sûr partenaire, et Pierrefitte-sur-Saulte s'est présenté, je ne sais plus, c'était peut-être M. Carlier à ce moment-là. Et puis voilà, au début c'est parti avec les musiciens sur la remorque du tracteur, mm-hmm, tout le monde dansait n'importe où, sur le champ de foire de Pierrefitte, je ne sais pas si vous connaissez Pierrefitte-sur-Saulre.
Pas encore, j'ai pas eu l'occasion d'y passer, mais ce sera l'occasion.
Il faudra venir au Musicalie 2014, dans ce magnifique petit village. Et puis voilà, et puis les folkeux sont, je vais dire, une race toujours pleine de bonne humeur, de soleil, la danse, la musique et les danses traditionnelles. Et d'année en année, on a évolué. Mm-hmm. Et c'est vrai que maintenant, on arrive... Les Musicalies en Sologne, c'est quand même un événement phare de la musique traditionnelle. Je pense qu'avec les Musicalies en Sologne, Pierrefitte-sur-Saulte, c'est connu dans tout le monde trad. Mmh. Et dans toute la France.
Et alors, qu'est-ce qui fait que justement, on ait eu envie comme ça de revenir à des musiques traditionnelles, en fait, alors qu'on est dans des... le public évolue aussi, mmh, on est dans des nouvelles technologies, même en termes de musique. Oui. Et là, on repart, vous parlez des vielleux, donc c'est de la vielle,
oui,
en fait, donc des anciens instruments.
Les groupes, maintenant, sont des groupes de jeunes. Mmh. Moi, je suis assez interloquée par le fait que ce sont beaucoup de jeunes qui sont passionnés par ces musiques. Et puis, ils évoluent effectivement dans leur prestations, ils introduisent des nouveaux instruments, de la guitare, de la batterie, et ils ont un petit côté jazz, tzigane. Par exemple, là, il y a un des groupes qui vient le vendredi 2 mai, là, ça... tout est réuni, c'est voyage de nuit, et il va nous faire partager un voyage de l'Espagne à l'Écosse, en passant par l'Auvergne, et c'est vraiment un rassemblement de cultures différentes. Donc il y a du jazz, du flamenco, du reggae un petit peu parce qu'il y a un percussionniste. Voilà, donc ça va être un beau voyage. Et puis par contre, Siakboum, le samedi soir, lui c'est plus danse Poitevin. C'est trois jeunes musiciens qui vont nous emmener danser toute la nuit.
Voilà. Donc on parle d'identité finalement solognote. Elle se marque aussi par la danse, par la musique.
Oui.
On connaît son patrimoine bâti notamment, qui est très très riche. On parle de la chasse évidemment. Oui. Mais c'est vrai que du coup, au niveau culturel, musical et danse, artistique, effectivement, il y a de quoi faire.
Tout à fait.
Et le fait de trouver des petits groupes comme ça qui sont là pour promouvoir cette identité, c'est pas difficile en fait, non, ça vient tout seul.
Ça vient tout seul. Alors ces groupes-là sont des groupes professionnels, et puis on accueille à peu près 70 groupes de musiciens bénévoles de tous âges, et qui viennent donc sur les musicalis. Et cette année, on va justement se concentrer sur l'accueil de ces musiciens bénévoles qui nous font l'honneur de venir jouer aux musicalis en Sologne.
Donc un gigantesque bœuf.
Ah bah il y a des bœufs du matin au soir. Peut-être pas le matin parce qu'ils se couchent tard.
Oui, mais c'est le temps un petit peu.
Voilà.
Donc les musicalis en Sologne. Donc l'édition 2013, c'est plutôt bien déroulée. Édition 2014, on reparlera dans la deuxième partie de cette émission, si vous le voulez bien, Noël. Je me tourne du coup vers vous, Patrick Morin. Pourquoi ? Parce que en termes de musique, eh bien, c'est pareil, le lien est fait. Vous êtes maire de Chon et vous êtes à la base musicien vous-même. Et vous allez pouvoir nous parler des rencontres musicales de Chon. Depuis quand est-ce qu'elles existent, ces rencontres musicales, Patrick ?
Elles existent depuis 2 ans maintenant. J'ai eu l'idée de faire ça il y a 2 ans. J'avais envie de... Le but pour moi, c'était de faire découvrir la musique classique et le jazz à un plus grand nombre, de rendre ces deux musiques moins élitistes, en même temps de promouvoir mon village à travers ça, bien sûr. Et donc j'ai tout de suite eu l'idée de faire ça. Je voulais d'abord faire ça sur une semaine, pour tout vous dire.
D'accord.
Et je me rappelle fois, notre président du département, Maurice Leroy, qui était ministre à l'époque, qui était venu, je lui avais parlé de mon intention. Il me dit, fais pas ça sur une semaine, c'est trop long. Fais ça sur 2 jours, ça suffira. Mmh. Finalement, je l'ai fait sur 2 jours et demi. J'ai suivi quand
comment
même un petit peu
comment couper la part en deux
idée. Voilà. Et c'est très bien parti. Il faut dire que on a eu des grands artistes qui sont venus la dernière année, notamment Jennifer Orchard, un premier violon de l'Orchestre philharmonique de Pittsburgh. Donc Pittsburgh, c'est l'un des plus grands orchestres des États-Unis, qui nous a fait la joie de venir jouer avec l'ensemble orchestral du Loir-et-Cher, donc qui est un orchestre fabuleux aussi, vraiment, qui demande à être connu plus. C'était la première fois qu'il venait jouer dans notre région, en plus dans le sud du département. Et ça a été un succès total, quoi. C'était Pleyel à Chon, dans la petite église. Voilà.
C'est ça. Parce que justement, voilà, en plus, les lieux où se produisent ces rencontres musicales ne sont pas anodins non plus. C'est le patrimoine de Chon qui est mis en avant aussi.
Tout à fait, tout à fait. On a la chance d'avoir une petite église magnifique, avec une acoustique fabuleuse. Bon, il ne tient pas beaucoup de personnes dedans, 200 maximum, mais l'acoustique est bonne, que vous soyez en haut, en bas, dans tous les coins. Nous avons notre musée du braconnage qui est très connu aussi, qui fait quand même 5000 visiteurs par an, auquel nous avons pu donner des concerts, des récitals, un peu plus cette fois jazz et classique, on a fait un petit mélange. Et puis il y a eu des groupes itinérants aussi en brass band qui étaient dans le village sur ces 2 jours. Voilà.
Alors sur ces rencontres également, c'est l'idée de favoriser aussi l'émergence de nouveaux, enfin en tout cas la découverte de nouveaux talents.
Bien
aussi.
Sûr, c'est le
important.
But aussi, c'est de faire jouer surtout des jeunes, des jeunes virtuoses, qui ont déjà quand même une petite renommée. Et donc c'est une chance inouïe pour eux et pour nous de pouvoir les entendre, et surtout pour les habitants de notre région qui qui sont pas habitués à entendre ce genre de musique. C'est vrai qu'on est plutôt tourné, c'est Orléans, c'est Tours, c'est bon Paris après la capitale. Et pourquoi pas Chon, quoi. Et c'est ce que m'a dit tout de suite Dominique Baran, le chef de l'ensemble orchestral du Loir-et-Cher. On est très content de venir dans jouer et justement de promouvoir la musique classique dans les régions un peu reculées, quoi.
Et est-ce qu'il a été compliqué de
le bout du bout, comme le dit bout notre monsieur le préfet Chon.
Est-ce qu'il a été compliqué de solliciter les artistes justement pour venir jusqu'à Chon dans le Loir-et-Cher? Ils se sont peut-être demandé où c'était dans la France.
Voilà, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, j'ai un petit carnet d'adresses qui m'est resté du temps où j'étais pianiste moi-même, et j'ai eu la chance de rencontrer Sally Dossange. Je connaissais très bien son mari, mais j'ai rencontré sa femme, qui est une grande mélomane aussi et qui a aussi un immense carnet d'adresses international. Et à nous deux, nous avons pu monter ce festival. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait en fin de compte. C'est rencontre de circonstances et puis beaucoup de travail en amont. Enfin, ça, tout le monde le sait, c'est pas Noël qui va nous dire le contraire.
Oui, hein, c'est vrai que voilà, il y a l'événement en lui-même, il y a tout le travail effectivement en amont, et c'est important de le souligner, que ça se fait pas d'un simple claquement de doigts ou d'un simple coup de téléphone quand même. On est bien d'accord.
Il faut ramer aussi pour les subventions, pour tout ça. Mais bon, je dois dire que j'ai bien été aidé et par la région et par le département, donc merci à eux deux pour notre festival en tout cas. Voilà, je peux dire ça.
Donc deux ans d'existence déjà.
Et je serai encore aidé
pour
l'année prochaine.
Justement, on en reparlera dans la deuxième partie, si vous le voulez bien. Et donc, troisième invité, Pascal Goubert de Coville, maire de Chaumont-sur-Tarronne et membre du comité d'organisation de l'association Sculpte en Sologne, vaste événement qui s'est déroulé là, il n'y a plus pas très très longtemps d'ailleurs, Pascal.
Oui, il y a un petit mois, c'est fini tout juste. D'ailleurs, toutes les œuvres ne sont pas encore remportées, donc c'est pour vous dire que c'est un travail à long terme.
Un travail à long terme, oui.
Mais si vous me permettez une petite genèse de l'événement.
Bien sûr.
2009, donc, la commune décide d'aider par l'intermédiaire d'un concours de performance, c'est-à-dire en fait de réalisation de sculptures sur place dans le cœur de village, des grosses billes amenées et des sculpteurs qui gravent en direct, qui sculptent en direct en tous les cas des billes de bois, et les œuvres appartiennent au village pendant 2 ans.
D'accord.
Donc, ce qui permet aux villageois à la fois de s'accaparer l'événement, puisqu'il a duré pendant 1 semaine au début, et en même temps, pendant 2 ans, vous voyez vivre les sculptures au milieu de votre village, donc vous les voyez évoluer, vous savez ce qu'il y a derrière, pourquoi elles ont été faites. Mmh. 2 ans après, sous l'impulsion d'un conseiller municipal, Geoffroy Le Hideux Vernimène, qui est aujourd'hui décédé, on ouvre un jardin de sculpture, donc on continue la performance. Et le jardin de sculpture, en fait, c'est un espace de 10 hectares, un château privé qui est mis à disposition pendant 1 semaine à l'époque, où là, l'œuvre réalisée, l'œuvre aboutie est montrée. Donc là, il y avait 45 artistes et 140 œuvres d'exposés. Et donc 2013, cette année, là, nous avons décidé d'ouvrir un petit peu plus large, c'est-à-dire qu'on ouvre maintenant au territoire à côté. Avec une thématique qui est territoire en résonance. Et là, nous avons ouvert un département œuvre in situ. Donc, ce sont des œuvres sur étang qui ont été mises du 1er juillet au 30 septembre. Un département land art, donc une œuvre réalisée en nature dans une autre propriété privée qui a été mise à disposition, donc ouverte pendant 3 mois, ce qui est assez rare en Sologne.
C'était la propriété de la Tougellerie, c'est ça ?
La Rougellerie.
La Rougellerie. La Rougellerie, effectivement.
À Chaumont-sur-Tarronne, absolument. C'est ça. Tout à fait. Et puis, donc bien sûr, le concours de performance pendant 15 jours. Donc ça a été allongé d'une semaine, parce que, si vous voulez, les œuvres sont de plus en plus monumentales, puisque aujourd'hui, vous pouvez en voir une dans le village qui fait 7 mètres de haut, donc qui fait 2 tonnes et demie. Donc évidemment, c'est de plus en plus gros. Donc le temps octroyé... 15 jours, c'est bien. Ça permet, en tous les cas, aux sculpteurs d'être un peu plus posés et d'avoir plus le temps de répondre et de se consacrer plus profondément à la sculpture réalisée. Et le jardin de sculpture, où il y avait 97 œuvres monumentales. Donc, tout ça fait que c'est une manifestation qui est unique à ce jour en France, déjà en croisant ces 3 formes d'art, et par la diversité, puisque ce ne sont que des œuvres monumentales d'extérieur. La plus lourde faisait 6 tonnes et la plus haute faisait 5,20 m.
D'accord. On suppose que le transport pour la plus lourde, c'était
un petit peu compliqué. Voilà, il faut déjà trouver le camion avec la grue, que ça coûte pas trop cher parce qu'on n'a pas des budgets extensibles. Donc oui, ça, il faut un grumier.
D'accord.
Bon, donc remarquez, dans le Pays du Bois, un grumier, ça va, c'est pas trop.
Oui,
compliqué.
Ça va, on peut le trouver facilement. Ceci dit, bon, on comprend que l'acheminement ne se fasse pas comme ça, encore une fois, de manière très très simple et très très souple. Alors, vous parliez de la thématique de la résonance. Hein. Est-ce que vous pouvez justement nous préciser un petit peu
Alors, territoire en résonance, pourquoi territoire en résonance? Parce que déjà, si vous êtes soloniaux, vous saurez qu'ici, on parle rarement de propriété, mais on parle souvent de territoire. On a nos territoires. Mmh. Ça revient à dire propriété, mais c'est territoire. Donc, le terme employé. Comme on ouvrait à d'autres départements, dans le Loiret, c'est un autre territoire. Vous savez qu'en France, il y a presque une frontière entre le 41 et le 45, entre tous les départements de France. Donc, on ouvrait sur un autre territoire. Et on ouvrait aussi sur les autres communes, l'intercommunalité. Donc aussi, là aussi, il y a des barrières psychiques qui sont là. Et donc, ça permettait éventuellement aussi de territoire. Et puis le territoire, puisque quand vous créez, c'est votre territoire à vous. Donc aussi, c'est le territoire du créateur, du sculpteur. D'où le territoire en résonance sur quatre angles.
D'accord.
Quatre axes en tous les cas.
Quatre axes. Donc on a bien compris, tout cet été, la Sologne s'est vue agrémentée d'œuvres monumentales, les œuvres in situ.
Voilà, tout l'été c'était surtout des œuvres sur étang. Alors pourquoi? Parce que si vous voulez, on est parti d'un constat. Vous avez la FFE, la Fédération Française d'Équitation, qui regroupe quand même au moment de juillet et août, on a je crois pas loin de 400 000 personnes qui sont là à tenir. Donc souvent il y en a une personne qui monte l'équidé, mais le reste... il faut bien les occuper. Donc, si l'idée était de se dire, voilà, on va leur offrir des petits parcours qui vont prendre grosso modo une à deux heures. Ils vont en même temps aller dans le village. S'ils vont dans le village, ils ont de la chance d'aller chez le boulanger ou au café ou à l'épicerie, consommer quelque chose et donc ramener, si vous voulez, une économie par là qui peut permettre, si vous voulez, un billet de 10 euros pendant 90 jours. Ça vous fait à la fin 900 euros de recettes que vous n'aviez pas escompté. Donc, pour chaque commerçant, il peut y avoir du bon.
Voilà,
c'était un peu l'idée d'ouvrir justement du 1er juillet jusqu'au 30 septembre.
Et dans le choix des artistes qui sont venus présenter leurs œuvres, ça s'est passé comment? Parce que vous disiez artistes de la région centre, de la France, mais du monde entier également.
Monde entier, ils sont tous français, mais en effet, ils sont de différentes nationalités. Après, comment ça se fait? Tout simplement, on fait un appel à candidature, on passe par la maison des artistes. Et comme on commence à être quand même assez connu et à avoir une renommée importante, on a eu exactement 152 dossiers de candidature.
D'accord, donc il a fallu faire un choix.
Donc on fait un tri, voilà, dans ces 152 dossiers. Bon, les œuvres nouvelles, les œuvres in situ, c'était un nouveau département, donc on a eu une quarantaine d'œuvres là-dessus de proposer pour 11 emplacements.
D'accord.
Donc oui, c'est un choix, après c'est un choix... C'est un choix. Donc, comme tout choix, il est forcément discutable.
C'est ça. Et bon, ça, les négociations, les discussions n'ont pas été trop houleuses.
Non, 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 parce que ça... Alors, je vais vous dire, ça se fait très, très bien à partir du moment où chacun est responsable. Il suffit simplement que chacun fasse ça dans son coin et il met oui, non, peut-être. Vous voyez, vous êtes 10, vous faites oui, non, peut-être. Et après, vous dépouillez les oui, non, peut-être et vous verrez que vous êtes tous sur la même liste. C'est très simple. Alors là, je vais vous dire, il n'y a pas plus... Et c'est très démocratique. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de discussion. Une belle œuvre, ça reste une belle œuvre. Un truc qui n'est pas beau, ça ne sera jamais beau.
Et alors, elles sont encore présentes, pour la plupart, sur le site, ou elles ont toutes été démantelées?
Je crois que Souvigny, elle n'est peut-être pas encore démantelée. Mais... Et Chon non plus. Si, Chon, c'est démonté.
C'est fait, là, ça
oui,
y est.
C'est démonté depuis 15 jours. Ça fait plaisir, monsieur le maire.
Écoute, je ne suis pas sûr.
Si, c'est sûr.
Je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps.
J'ai bien fait de poser la question. Donc, si vous voulez faire un petit tour du côté de Chon, peut-être existe-t-il encore une œuvre monumentale.
Moi, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps.
Et à ça, je tiens quand même à remercier tous les maires qui ont bien voulu jouer le jeu. Parce que c'était pas évident, si vous voulez aller mettre une œuvre, quand vous mettez Aenide dans l'eau, forcément, ça peut poser des questions à des gens, si vous voulez. Mais Aenide, j'ai besoin de quoi? En fait, j'ai besoin de l'eau pour avoir le reflet de mon Aenide qui se reflète des deux côtés, voilà. Donc, si vous voulez, il y avait des œuvres relativement faciles, des œuvres figuratives, et puis il y avait des œuvres qui étaient un petit peu plus compliquées. Donc, merci à tous les maires qui ont bien voulu, qui ont joué le jeu. Merci aux propriétaires qui ont bien voulu ouvrir leur propriété ou qui ont bien voulu mettre quelque chose dans leur... étang, puisque l'étang de Villebourgeon s'est ouvert aussi au public, et il y est toujours, lui, parce que j'y suis passé hier.
Et on pourrait peut-être parler aussi du financement, parce que nous, on a eu des retombées dans nos villages, en nous disant alors justement que c'était de l'argent qui était dépensé.
Alors, ce sera justement la deuxième partie, de voir un petit peu les différents impacts de ces, en tout cas, de ces trois exemples d'événements qui ont quand même marqué cette année 2013 et qui vont certainement continuer à marquer les années futures. Je vous propose de marquer une petite pause, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission.
18h30, 19h, le magazine Éco-Innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Suite de l'émission La Sologne, terre d'identité et de qualité. Je vous le rappelle, ce soir, nous parlons des offres culturelles et de leur impact économique en Grande-Sologne. Nous avons vu combien les offres étaient nombreuses, différentes, originales, voire insolites. Mais quelles en sont les retombées économiques ? Sont-elles, ces retombées sont-elles uniquement ou directement financières ou rayonnent-elles dans d'autres domaines d'activité, notamment le tourisme ? C'est la question que je vais vous poser. Donc je rappelle nos invités, Pascal Goubert-Decauville, Noël Gardet et Patrick Morin. Je reprends avec vous, peut-être Noël, on avait commencé à ouvrir l'émission avec vous. Quelles sont les retombées, on va dire, directes de ces musicalis en Sologne ? Quel impact elles ont en fait, ces musicalis ?
Au point de vue économique, elles ont des retombées sur les commerces de tout le pays de la Sologne, Pierrefitte-sur-Saulce, Salbris, tous les commerces, des retombées dans toutes les résidences de tourisme, parce que il y a quand même, normalement, il peut y avoir entre 5 000 et 8 000 festivaliers, donc il faut ces gens-là se loge. Et puis ça fait également des retombées dans les campings, on est en partenariat avec des campings, toutes les chambres d'hôtes et les gîtes, et puis nous avons le bonheur d'avoir des grands domaines comme Chalès ou Cours Simon qui nous accueillent également. D'ailleurs nous travaillons en partenariat avec soit l'un soit l'autre pour loger nos concerts, nos artistes professionnels. Et puis, il y a des retombées aussi au niveau du tourisme. Je pense que ça permet à la France entière de connaître la Sologne avec les musicalis. Mais ça a aussi beaucoup de retombées sur les locaux. Parce que les musicalis en Sologne, le premier week-end du mois de mai, c'est un événement phare pour tous les locaux d'ici. Et on vient faire une petite balade en famille. On sait qu'il y a un bal pour les enfants. Il y a le bal des timides à telle heure. On regarde sur le programme. On a regardé d'abord sur le site internet, on vient, on sait qu'on peut manger, boire. C'est un espace où on rentre gratuitement, tout est gratuit. Donc je pense que les locaux, les musicalis en Sologne, comme bien d'autres manifestations en Sologne, sont devenus vraiment des moments phares.
Donc pour rebondir sur ce que disait Pascal Goubert-Decauville dans la première partie, les habitants finalement s'approprient leur territoire en fait, donc via les sculptures monumentales, mais via la musique on s'approprie son territoire.
Mais c'est ce qu'on espère. Nous, on est accueillis par la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre. Je remercie là beaucoup la commune de Pierrefitte-sur-Sauldre, parce que sans le partenariat de la mairie, les musicalis en Sologne ne pourraient pas avoir lieu. Parce que comme Monsieur Goubert et Monsieur Morin, nous avons tout le temps des problèmes qui se résolvent, mais de subventions ou d'autres. Mais c'est vrai que notre plus grand partenaire, c'est la municipalité de Pierrefitte-sur-Saône et les habitants qui participent au montage, au démontage et qui sont partie prenante avec nous. Sans eux, ce ne serait pas possible.
Même chose pour vous, notamment vous, Patrick Morin, sur la commune de Chons, les principales retombées en fait, économiques de ces rencontres musicales. Est-ce qu'elles sont purement financières ? Est-ce qu'au contraire, non, on est peut-être un peu moins financier, mais plus dans le rayonnement, le partage ?
Oui, ça ne peut pas être financier, puisque d'abord, moi, en tant que maire, déjà, je ne veux surtout pas que ma commune, qu'on me reproche de mettre de l'argent pour un festival. Et que... Donc, c'est pour ça que j'ai créé une association qui s'en occupe, qui est présidée par Virginie Mallet, et donc il y a un trésorier et tout ça. La mairie ne met simplement à disposition de l'association ses lieux, ses locaux. D'accord. Et c'est tout le reste. Maintenant, les retombées économiques, pour l'instant, vous savez, Chons, c'est un petit village. C'est surtout le but, c'est de se faire connaître, de reprendre une image de marque. Nous avons déjà notre maison du braconnage qui est connue dans toute l'Europe, voire plus même. On est en train de prendre le même chemin avec les rencontres musicales de Chons, puisque cette année nous aurons Jean-François Zigel, qui est quand même un éminent pianiste, qui suit le même but que nous, c'est-à-dire de démocratiser la musique classique à travers son émission sur France 2, à travers les émissions et les spectacles qu'il fait au Châtelet, partout en France aussi. On poursuit le même but, mais vous dire les retombées économiques pour l'instant, je ne peux pas.
Oui, bien sûr.
Je vais être franc, c'est plutôt un but culturel, on va dire.
Tout à fait. De votre côté, Pascal Goubert-Decauville ?
Alors, toujours pareil, dans l'histoire de la Genèse, les deux premières éditions étaient portées par la mairie. Et après, il y a une association, comme Patrick, qui a été créée, qui a permis, si vous voulez, de capter plus de subventions publiques, puisque tout à l'heure, tu as laissé aborder ce problème-là. Donc, en fait, la municipalité de Chaumont participe d'une façon importante, puisque c'est le premier donateur. Derrière, vous avez le pays, par l'intermédiaire du FEDER. Vous avez la région, par l'intermédiaire du PAC, qui est la politique artistique, culturelle, territoriale. Tiens, on retrouve territoire, vous voyez.
Tout à fait.
Et le Conseil général aussi qui nous a aidés pour cette année. Derrière, on a aussi du sponsoring privé, c'est-à-dire qu'on a des entreprises privées qui nous ont aidés financièrement en nous donnant de l'argent, plus ce qu'on appelle du mécénat d'entreprise, à savoir que, par exemple, Center Park nous met à disposition des cottages pour loger les artistes pendant la période. Alors, si vous voulez, les artistes étant logés, bon, bah, il faut bien qu'ils mangent le midi, donc tout ça fait tourner une forme d'économie. Derrière, je rejoindrai Patrick en disant que c'est peut-être pas les retombées économiques fondamentales, dans le sens où ce n'est pas l'engagement premier. L'engagement premier, il est de faire vivre nos villages par des manifestations qui, on espère, tirent vers le haut. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'on cherche. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on y arrive aussi. Derrière, si vous voulez, dans le cas de Chaumont-sur-Tarronne, comme on cherche en même temps une labellisation dans les plus beaux villages de France, bon, c'est aussi un des axes de développement, comme un autre.
Donc on est plus en fait dans le rayonnement et dans l'après-coup, finalement, et dans le maillage de ce que ça peut organiser, en fait, de ce que ça peut faire, hein, plus que dans un retour sur investissement, quelque part. Quoi. On n'est pas du tout dans cet esprit-là, on est bien d'accord.
Peut-être une lecture commune de la Sologne.
Oui, c'est ça.
Vous voyez, par ce que vous dites, c'est vrai, maillage, et ça, c'est très important. Mais ça pourrait donner une identité, après, visuelle et culturelle à la Sologne, mais toujours en associant un mot avec la Sologne.
Est-ce qu'on peut dire que toutes ces offres que vous nous avez présentées, hein, ces offres culturelles, c'est un petit peu un pied de nez au préjugé sur l'identité première de la Sologne ? Est-ce que vous avez un petit peu l'impression de donner un petit coup de pied dans la fourmilière en disant que la Sologne, c'est pas un département, un territoire perdu au fin fond des bois et qu'il s'y passe vraiment des choses intéressantes et une ouverture en fait générale ?
Je pense que c'est notre but à tous les trois, bien évident, de montrer qu'on peut réaliser de grandes choses et créer de grandes œuvres aussi dans notre région. Quoi.
Je rajouterais que la Sologne étant privée à 90%, à partir du moment où on a des partenariats avec des propriétaires qui acceptent d'ouvrir leur propriété pendant un laps de temps, même pendant 15 jours, même pendant une journée, on arrive quand même à des choses intéressantes, puisque là, ça va permettre à des publics, même des gens du village, de retourner voir éventuellement ou de retrouver des souvenirs d'enfants, ou de retrouver toute une histoire qui éventuellement leur a été un moment fermée et là qu'ils peuvent retrouver pendant un moment donné.
Exactement. Alors, l'année 2014 qui s'ouvre à nous est une année un petit peu particulière, on l'aura bien compris, année d'élection. Est-ce que, du coup, on peut quand même parler un petit peu des projets de chacun d'entre vous, avec peut-être un petit peu de réserve, mais les Musicaliers en Sologne 2014, c'est déjà en piste. Vous avez évoqué déjà des rendez-vous au mois de mai, dans cette première partie d'émission.
C'est déjà parti. On a déjà commencé à travailler déjà depuis plusieurs semaines. Les dossiers de subvention sont partis. Parce que comme messieurs Goubert et messieurs Morin, nous ne pouvons pas faire les Musicaliers en Sologne sans l'aide de la région Centre, sans l'aide du Conseil Général 41 tout particulièrement. Et donc oui, nous, 2 mai, 3 mai et 4 mai, il y aura les Musicaliers en Sologne à Perfide-sur-Saulne, quelle que soit la municipalité, parce que je pense qu'on s'est engagé, on part, on la fera, on les fera ces Musicaliers, quel que soit le résultat des élections. Voilà, je ne fais pas de polémique.
On est bien d'accord. Politique. Et de votre côté, messieurs, par rapport notamment aux rencontres musicales de Chaumont, vous avez déjà des...
On est obligé de faire des projets. Et bien évidemment que j'espère que les gens de Chaumont comprendront que si je m'investis jour et nuit, je veux presque dire, pour ce village, j'espère que j'en aurai une certaine gratitude. Maintenant, de toute façon, on fera certainement cette émission, puisque cette émission, ces rencontres musicales, puisque c'est prévu, vous dire dans quelles conditions, je ne peux
bien
pas
sûr.
Vous dire
non,
encore
non,
actuellement,
en fait,
mais par contre, voilà.
Et alors, les sculptes en Sologne...
C'est l'avantage de la Biennale.
C'est la Biennale, c'est ça. Hein. donc on va encore
une petite année de repos, mais en fait, c'est une fausse année de repos, puisqu'il va falloir mettre à jour tous les dossiers de candidature, envoyer les dossiers de candidature, puisque, grosso modo, le choix des œuvres se fait en décembre 2014.
D'accord.
Donc ça veut dire que la machine doit se relancer.
De toute façon, ça ne s'arrête pas.
De façon à ce que décembre 2014, toutes les œuvres soient choisies et qu'on sache exactement où on va.
Oui, parce que vous savez, c'est pas facile pour c'est pareil pour toi comme pour nous. Vous trouvez des artistes, un an, c'est court. Vous avez deux ans, mais c'est vrai que ça va très vite aussi. Mm-hmm. Et on se rend compte que là, on travaille déjà sur certains artistes qui peuvent déjà être pris. Et remettre ça l'année d'après.
Complètement.
Et... D'instant, on travaille avec des artistes internationaux. Mm-hmm. Voilà.
Proposition, bon, en 2014, voilà, la programmation est bouclée, mais vous nous refaites signe, on donne notre candidature pour 2015. Donc on n'est pas encore en 2015, mais c'est vrai
ça commence.
Ils se battent tous à la porte pour rentrer.
C'est plutôt bon signe.
Oui, tout
ceci
à fait.
Dit, hein, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a, du coup, on comprend effectivement le travail. Hein, c'est qu'une fois que le festival ou l'événement, en tout cas, s'est arrêté, ça ne s'arrête pas pour les organisateurs, hein, les acteurs locaux, évidemment, ça n'est qu'un perpétuel recommencement, évidemment. Où est-ce qu'on peut trouver les différentes informations concernant justement ces différentes offres pour les musicaliers en Sologne, le site de l'UCPS.
Voilà, le site de l'UCPS, l'Union pour la culture populaire en Sologne, www.ucps.fr, et qui est mis à jour tous les jours. Donc vous pouvez voir toutes les infos. Et donc là, les musicaliers en Sologne, il y a toujours un petit échauffement avec la nuit du folk, qui cette année se fera exceptionnellement à Nouhans le Fuselier. Et ce sera le 5 avril 2014. Donc
d'accord,
on échauffe les pieds,
un petit peu.
Et après, on attaque avec les musicaliers mois de mai.
Donc rendez-vous en avril et en mai.
Voilà.
Et pour vous, messieurs, différents sites
Il y a un site, bien sûr,
rencontre
musicale de Chon.fr. Mm-hmm. Vous pouvez, vous aurez les dernières informations concernant les artistes. Le site de la commune, Chon.fr, qui lui aussi relatera toutes les manifestations qu'il y aura cette année. Donc je précise que ça sera le dernier week-end de juin, comme cette année-là.
D'accord.
Donc je crois que c'est 27, 28 et 29 juin, il me semble, si ma mémoire est bonne. Donc,
il faut, voilà, on invite nos auditeurs à noter sur leur calendrier, si tant est qu'on puisse l'avoir, on puisse avoir celui de 2014, mais en tout cas, il faut surtout noter ces rendez-vous. Pour les biennales, eh bien, ce sera 2015.
Mais www.sculptansolonne.com, voilà, comme tout le monde.
Comme tout le monde.
Et rattaché, évidemment, avec la mairie renvoie sur ce site-là pour ceux qui sont intéressés, donc. Voilà, en fait, on n'a pas fait le soleil. Tout le monde fait le même soleil, donc voilà.
Et bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, à vous trois, d'avoir pu montrer à nos auditeurs combien la diversité culturelle était importante dans ce territoire de Grande-Sologne. Et puis, eh bien, autre site également sur lequel vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, c'est le www.megafm.fr, ainsi que le site du pays de Grande-Sologne. Excellente soirée à l'écoute de Méga FM.
Merci, bonsoir.
C'était La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne de Méga FM.